Le libre dans tous ses états, c'est un tout petit bout de divergence numérique que vous retrouvez tous les jeudis à 12h30 et 17h30. Jeanne Tadeuse est chargée de mission Affaires publiques à l'April et elle va répondre à nos questions sur le service public du numérique éducatif et puis à la question de savoir si le service public d'éducation Skeren CNDP est le nouveau showroom de Microsoft avec la complicité du café pédagogique. Nous sommes avec Jeanne Tadeuse de l'April. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Alors on est ensemble pour parler de ce qui se passe autour du monde de l'éducation avec notamment en ce moment pas mal de débats à l'Assemblée nationale sur les questions du numérique et du monde de l'éducation.
Oui, oui, tout à fait. Donc parce que le projet de loi donc sur la refondation de l'école a été débattu ces dernières semaines à l'Assemblée. Et donc, parmi les dispositions de ce projet de loi, qui est très très large, il y avait notamment la question de la mise en place d'un service public numérique de l'éducation numérique, ainsi que des questions de l'exception pédagogique et de l'ouverture de l'enseignement de l'informatique et des sciences du numérique à l'ensemble des terminales en tant que spécialité.
Alors, où est-ce que ça coince ?
Alors, où est-ce que ça coince ? Déjà, le plus choquant, sans doute, pour l'April, et aussi pour nous tous, c'est sur l'exception pédagogique, on marche complètement sur la tête, alors que c'est un sujet qui est important dans le numérique ou pour d'autres. L'exception pédagogique, en fait, c'est la possibilité pour les professeurs de pouvoir utiliser des œuvres, même si elles ne sont pas dans le domaine public. Donc, finalement, on avait parlé d'élargir cette exception pédagogique, et cet élargissement est fait par la loi de manière extrêmement restreinte, et complètement à minima, sans qu'on ait même de débat sur la question, puisqu'on a considéré qu'il y allait avoir un projet de loi sur le droit d'auteur avec la mission ESCURE à la fin de l'année, oui. Et que donc tout ce qui était exception pédagogique serait renvoyé à ce texte.
On n'aborde pas les sujets, alors c'est marrant parce qu'en ce moment on a aussi beaucoup parlé de la Bibliothèque Nationale de France, on va dire que le contexte il est plutôt pas très favorable.
Oui, et puis en fait, ce qui est vraiment paradoxal, c'est qu'on a une question de l'exception pédagogique qui est aujourd'hui fondamentale pour les professeurs, pour l'enseignement, etc. On est dans un cadre d'un projet de loi sur la refondation de l'école, où justement on parle de nouvelles manières d'enseigner avec le numérique, aussi de possibilités d'utiliser plus de ressources plus variées pour les professeurs. Et en parallèle, on botte complètement en touche sur cette question cruciale de l'exception pédagogique au profit d'un projet de loi qui arrive plus tard, mais qui regroupera aussi plein de questions sur le droit d'auteur et autres. On sait très bien que tous les lobbies du secteur seront vent debout pour empêcher l'élargissement de l'exception pédagogique.
Oui, oui, ça semble évident à voir, on va dire, tout ce qui se passe un petit peu partout. Alors c'est marrant, puisque le patron de Free a présenté très récemment son école pour informaticiens, et dénonce lui aussi, enfin je veux dire, le système éducatif qui n'avance pas, qui ne crée pas. Alors qu'on sait, et ça a été rabâché ces derniers mois, qu'on a besoin, par exemple, d'informaticiens en logiciel libre, de développeurs, qu'il y a un marché pour ça, qu'il y a de l'emploi. Le ministère de l'Éducation n'est pas très inspiré en ce moment.
Tout à fait, sachant qu'il y a quand même sur ce point-là une petite avancée avec le nouveau projet de loi pour la refondation de l'école, c'est l'ouverture donc de l'enseignement de l'informatique et de la science du numérique, donc de l'informatique en tant que science et pas simplement à l'usage des outils informatiques, à l'ensemble des terminales en tant qu'option, donc ça reste quelque chose de limité. Bien évidemment, il faudrait l'ouvrir beaucoup plus largement et aussi commencer bien avant la terminale, mais malgré tout, là-dessus, on a quand même une petite avancée et un début de prise de conscience de l'importance de ces apprentissages et des enseignements.
On avait parlé de Microsoft et des ministères à propos justement de l'open bar avec la défense, mais côté éducation aussi, le lobby de la firme de Redmond semble très actif en ce moment.
Oui, tout à fait. On peut se souvenir d'un certain nombre de réunions organisées par l'Éducation nationale qui avaient eu lieu dans les locaux de Microsoft l'an passé. Aujourd'hui, on voit donc le Tour de France numérique pour l'éducation, qui est à toutes les apparences de quelque chose de purement officiel, puisque c'est organisé par le Centre national de documentation pédagogique. C'est mis en place avec les rectorats et les académies. Sauf qu'en réalité, c'est fait en parallèle avec le café pédagogique et Microsoft est partenaire de l'opération. Alors, qu'est-ce qu'on aboutit? On a donc ce Tour de France numérique pour l'éducation qui vante soi-disant les professeurs innovants, l'innovation dans l'éducation et autres, avec une des principales animations, c'est la présentation des produits Microsoft.
Oui.
Donc, une fois de plus, on a un blocage complet. On donne l'impression que la seule innovation qui puisse exister dans l'éducation et notamment dans les questions numériques, dans l'usage d'outils numériques, c'est ce que propose Microsoft, et donc d'enfermer finalement les élèves, les professeurs et l'ensemble du système éducatif dans leur système, comme si le logiciel libre et d'autres n'existaient pas, alors même que des professeurs... Il y a beaucoup de professeurs qui proposent des ressources libres, qui développent des logiciels libres à l'usage éducatif, qui fonctionnent tout aussi bien et qui n'ont pas ce danger d'enfermement qu'on retrouve avec les logiciels Microsoft.
Mmh. Est-ce que ce ne serait pas Microsoft qui a financé le Tour de France numérique pour l'éducation ou qui a carrément rémunéré le CNDP ?
Alors, je connais pas de toute façon les détails. Là, les partenaires de l'opération, donc on peut imaginer en tout cas qu'il y a eu un certain nombre de...
De frais engagés.
Pour être partenaire de l'opération, ça veut dire qu'il la cofinance. Et après aussi, c'est organisé par le Café Pédagogique, qui est, lui, un site internet, donc... qui ne dit pas forcément qu'il est pro-Microsoft, mais en réalité financé principalement par eux, et donc avec un biais très pro-Microsoft.
Alors, entre la circulaire Aero et puis cette démarche du CNDP, on peut dire qu'il y a une dissonance cognitive ?
Oui, on peut clairement regretter. Il y a beaucoup d'annonces sur le fait que le logiciel libre, il faut beaucoup plus en utiliser et que ça présente des avantages très clairs dans beaucoup de domaines. Par contre, on voit bien qu'il y a de très mauvaises habitudes qui sont encore très fortement ancrées, notamment en termes de Microsoft partout et aussi en termes de marketing ou autre, où justement tout ce qui est logiciel libre n'est pas toujours ni même pris en compte, surtout quand il s'agit, comme dans le cas de l'éducation, de beaucoup de projets communautaires sans forcément avoir les mêmes... pas forcément les mêmes moyens en termes de communication, de marketing et d'image.
Mmh. Alors comment agit l'April face à ça? J'imagine que vous avez, à part les communiqués ou etc., vous essayez de poser des questions ou d'en savoir plus?
Oui, absolument. Alors sur ces questions précisément d'éducation, on a eu l'occasion d'échanger avec avec des députés. On a pu discuter du projet de loi aussi, proposer pourquoi pas des améliorations. Là, il faut voir qu'on est passé par la première lecture. On aura le mois prochain, a priori, une première lecture également au Sénat, et ensuite une deuxième lecture à l'Assemblée et au Sénat. Donc là, on aura sans doute les moyens d'ouvrir le dialogue aussi. Et après, sur d'autres questions plus vastes, quand vous parliez tout à l'heure de l'open bar Microsoft avec la défense, on pose aussi la question de manière publique, on a envoyé une demande d'information complémentaire, parce que légalement, comme c'est des documents administratifs, tous ces marchés, tous ces accords cadres, on a demandé à pouvoir avoir accès à ces documents administratifs, et donc aujourd'hui notre demande est en attente parce qu'on n'a toujours pas eu de réponse.
Voilà, la demande remonte à combien de temps ?
La demande remonte à plus d'un mois, et donc la semaine dernière, nous avons saisi la CADA, la commission pour l'accès aux documents administratifs, pour lui demander rendre un avis disant qu'on a bien le droit d'obtenir la communication de ces documents. Donc c'est la première étape, c'est un recours, on va dire, purement gracieux dans l'administration pour savoir pourquoi. On n'a toujours pas reçu ces documents.
Pour terminer, justement, par rapport à cette histoire avec le Café Pédagogique et le CNDP, l'April et aussi Framasoft, vous avez demandé au CNDP soit l'arrêt de cette opération ou à défaut qu'elle soit sérieusement amendée pour que toute la place nécessaire aux logiciels libres et aux ressources libres pour l'éducation soit faite. Là aussi, vous avez eu une réponse ou pas du tout?
Non,
ou dans
nous
un mois,
pas eu de réponse, en tout cas pas publique à ce jour. Éventuellement, quelques commentaires plus ou moins amicaux sur les réseaux sociaux, mais pas de réponse officielle.
Jeanne, merci. On aura l'occasion de se revoir au téléphone pour d'autres sujets importants.
Tout à fait. Merci à vous.
À très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Jeanne Tadeuse, donc de l'April, pour évoquer ces questions. Vous l'aurez compris, la copie du gouvernement en matière de logiciel libre et d'éducation est à surveiller de près, voire même à revoir. Mais pour ça, il faudrait qu'il l'ait rendu, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. On va écouter Quantum Love, toujours de Sacha Raskin, qui nous accompagne dans cette 163e divergence numérique, toujours sous licence Creative Commons
by NC.
By NC 3.0. Merci Pascal.
Nous sommes au téléphone avec Lionel Alorge, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est une divergence numérique décidément spéciale April, pourrait-on dire, puisqu'on évoquait tout à l'heure avec Jeanne les questions autour de l'éducation et puis de Microsoft, etc. Là, on a deux sujets à évoquer avec vous en tant que président de l'April. Un sujet, on va dire, qui fâche et puis un sujet qui fâche moins. On va commencer évidemment par les choses qui fâchent. C'est le grand retour, puisque Hollywood était, si je ne m'abuse, à l'origine déjà de toute l'histoire qui nous a amené à l'EUCD il y a quelques années. Hollywood remet ça et met en place une nouvelle stratégie, hein, le dernier stratagème à la mode pour s'approprier le web, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. L'idée, c'est toujours la même, hein, c'est d'essayer de contrôler l'usage des fichiers et donc de remettre au goût du jour les DRM ou des mécanismes équivalents.
Là, ça concerne, on va dire, une éventuelle implémentation des menottes numériques, les fameux DRM, directement au sein du W3C, qui, rappelons-le, est le World Wide Web Consortium qui est chargé, on va dire, de fixer les standards du web. Et notamment, là, il s'agirait donc d'inclure ces DRM dans HTML5. Et ça fait bondir tout un tas de gens.
Oui, tout à fait. Le problème, c'est que si on laisse faire ça, on risque d'obtenir dans la nouvelle norme HTML, donc la version 5 qui est en cours de préparation, des mécanismes qui vont nous empêcher de pouvoir, par exemple, visionner des vidéos, écouter de la musique en ligne, ce genre de choses. Et tout ça par le biais de ces fameuses menottes numériques qui sont ni plus ni moins que des espèces de verrous que les sociétés de gestion de droits essayent de nous imposer. Et bien sûr, ces systèmes sont totalement privateurs de liberté. Ils sont contraires au principe du logiciel libre. Et donc, nous essayons de les dénoncer et de les combattre.
D'autant qu'on l'a souvent évoqué sur cette antenne avec divers intervenants qui sont plutôt spécialisés sur ces questions, le fait que finalement vouloir contrôler de façon coercitive les échanges sur Internet, ça revient à faire une espèce de course à l'échalote technologique dont personne ne sortira jamais vainqueur.
Oui, bon, c'est l'histoire du glaive et du bouclier, c'est-à-dire que chaque fois qu'un nouveau mécanisme est inventé, une parade est trouvée. Mais le problème, c'est que cette faiblesse technologique, donc dont sont bien conscients les gens qui essayent de nous imposer les DRM, la seule méthode qu'ils aient trouvée pour essayer de la maintenir en place, c'est justement par le biais légal. Et c'est ce qui nous pose beaucoup de problèmes, notamment avec la loi DADVSI en France, qui interdit de contourner ces DRM, même pour des raisons tout à fait valables. Mmh. L'exemple célèbre, c'est si vous achetez un DVD, il y a probablement des DRM dedans. Si vous voulez les lire avec un lecteur de vidéo libre, vous devez contourner ces DRM. Pourtant, la loi vous l'interdit.
Et puis, ça bafoue un petit peu aussi la question de l'interopérabilité.
Oui, il n'y a bien sûr aucune interopérabilité possible parce que ces DRM, chaque grand fabricant veut implémenter le sien. Et bien sûr, il n'y a aucune norme, ils ne s'entendent pas entre eux. Et même s'ils arrivaient à faire une norme commune, ça ne pourrait probablement que faciliter le craquage, si on peut dire, de ces DRM.
Comme on l'avait vu, en 98, avec Clinton, qui avait finalement contourné la Cour suprême américaine en s'adressant à l'Office international de la propriété intellectuelle, finalement, certains grands acteurs se tournent, font un petit peu la même chose, ils se tournent vers des organismes non gouvernementaux, là en l'occurrence le W3C, et ce qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est que des grands comme Netflix, Google, Microsoft ou encore la BBC ont tendance à se rallier à cette proposition que l'April qualifie de désastreuse. Et c'est une menace de plus et qui justifie le fait d'essayer de rassembler ces 50 000 signatures avant le 3 mai.
Oui, bien sûr, c'est une menace parce que c'était déjà le problème qui était au cœur des accords qui avaient été secrètement négociés, qu'on appelle ACTA. Mm-hmm. ACTA, on a réussi à obtenir son rejet au niveau du Parlement européen. Et ce qui a été sorti par la porte revient par la fenêtre. Donc là, c'est à peu près les mêmes choses, mais qui reviennent par le biais donc d'une norme internationale du web. Et à chaque fois, on est reconfronté aux mêmes arguments, c'est-à-dire cette idée que ça serait fait pour défendre les intérêts des auteurs. Mmh. Or, ça, c'est quelque chose que nous contestons fortement, parce que nous sommes nous-mêmes auteurs de logiciels, mais aussi auteurs de photos, de vidéos, de musique, que nous voulons distribuer par des licences libres. Et il n'est pas question pour nous d'accepter de telles restrictions.
Et puis ça viendrait, bafouer un des fondements du W3C, qui est de garder le web libre de droit. Est-ce que c'est au sein du W3C qu'il y a des gens qui seraient prêts à intégrer justement ces DRM dans HTML5 comment est-ce que vous avez entendu des réactions du côté du W3C?
Actuellement, on a entendu surtout des échos de gens qui essayaient de défendre ça, notamment M. Berners-Lee qui a expliqué que ça serait moins pire d'avoir ça que des choses encore plus graves. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui me paraît insoutenable. On ne peut pas accepter d'avoir quelque chose de très grave pour essayer d'éviter pire encore. Je pense qu'il faut vraiment combattre l'ensemble de ces méthodes et rappeler qu'on peut très bien rester dans la légalité tout en souhaitant ne pas avoir de DRM. C'est nécessaire, encore une fois, pour pouvoir lire ces fichiers dans des systèmes de logiciels libres.
Je le disais donc tout à l'heure, l'objectif du coup, c'est de rassembler 50 000 signatures avant le 3 mai 2013, qui sera la journée internationale contre les DRM, qu'on retrouve sur le site international defectivebydesign.org. On ne peut qu'encourager les gens à signer, donc soit en allant sur le site de l'April et en trouvant le lien, soit en allant sur ce site, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Actuellement, l'appel à signature est rédigé en anglais sur le site donc d'Effective by Design. L'April en a proposé une traduction en français. On espère que peut-être le site principal va pouvoir mettre en place aussi une version française. Mais de toute façon, on incite les gens à signer. J'ai moi-même signé il y a quelques jours. Parce que le but, c'est de faire un peu de bruit et de leur montrer que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec de telles méthodes.
Donc on restera évidemment à l'écoute de cette menace qui, une nouvelle fois, plane sur l'Internet. Et puis pour avoir abordé un sujet plus festif, et c'est le cas de le dire, c'est l'édition 2013 de Libre en Fête, qui une manifestation qui existe depuis une douzaine d'années déjà, si je ne m'abuse.
Tout à fait, et c'est quelque chose qu'on a plaisir à reconduire chaque année. L'idée, c'est assez simple, c'était au début pour contrer un petit peu la fête de l'Internet qui avait été mise en place par le gouvernement de l'époque et qui faisait la part belle aux grands groupes, aux grands médias, et pas tellement à l'Internet comme nous on l'aime, c'est-à-dire libre. Mmh. Donc on a essayé de monter cet événement. Et on essaie de le faire vivre donc en appelant tous les endroits où on peut utiliser de l'informatique, hein, c'est-à-dire souvent des médiathèques, des espaces publics numériques, des endroits comme ça, qui ont l'habitude d'accueillir du public. On leur propose donc de faire des petits événements autour du logiciel libre pour faire connaître la démarche, bien sûr. Et puis avec aussi des découvertes de Wikipédia, d'OpenStreetMap, enfin de tout ce mouvement qui va vers un web libre.
L'édition 2013 est organisée en partenariat avec la délégation aux usages de l'Internet, le réseau Cyberbase de la Caisse des dépôts, l'agenda du libre aussi. Ce partenariat, c'est la première année, notamment au niveau de la délégation aux usages de l'Internet, qui est quand même un organisme gouvernemental.
Oui, non, il existe depuis plusieurs années, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça fait plusieurs années qu'il est reconduit. Et donc, c'est un signe qui nous paraît encourageant. Et puis, on a aussi beaucoup de cyberbases, d'espaces publics numériques qui soutiennent cette action au plus près, parce que l'intérêt, c'est vraiment d'aller voir le grand public avec ce genre de démarche. On essaie d'aller très au-delà du monde des libristes, on va dire, et on essaye de toucher vraiment un peu tout le monde par des choses très simples, hein, des petites démonstrations, des mises en situation, des choses comme ça. Et ça nous permet de toucher un public que d'habitude on touche peut-être pas forcément. Mmh.
Alors si on va jeter un œil sur libre-en-fête.net, on se rend compte que c'est surtout en Rhône-Alpes qu'il y a un maximum d'événements. Est-ce que depuis 12 ans, il y a des variations géographiques justement sur l'activité dans chaque région?
Alors ça varie pas mal parce que ça dépend beaucoup des gens qui localement organisent ces événements. Mmh. Hein, l'April a mis en place le site pour faire connaître un petit peu de tous ces événements, pour les rassembler en un même lieu. Mais évidemment, ça dépend de la bonne volonté de chacun en région de le faire. Alors effectivement, selon les années, il peut peut-être y avoir plus d'activités à un endroit qu'à un autre. Et voilà, nous, on ne sait pas trop. Ça, encore une fois, ça dépend beaucoup des gens sur le terrain. Alors d'année en année, ça peut changer. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller au plus près des citoyens pour leur parler d'un autre type d'Internet, c'est-à-dire pas seulement l'Internet contrôlé par les grandes entités commerciales, mais voilà, un Internet qu'on espère libre pour longtemps.
On retrouve tous les événements et puis aussi la possibilité peut-être d'en proposer, il est peut-être encore temps, sur donc libre-en-fête.net, en souhaitant qu'il y ait tout plein d'événements. C'est vrai que Rhône-Alpes arrive en tête et largement. Pour ce qui nous concerne à nous, Langue de Croussillon, à part un rendez-vous à Castelnaudary, rien n'est encore listé. Mais c'est vrai qu'à Montpellier, on est surtout sur la brèche sur les RMLL 2014, ceci expliquant peut-être cela. Lionel Alorge, merci beaucoup. Et puis, on ne manquera pas de se revoir au téléphone pour aborder des sujets, soit joyeux, soit inquiétants, dirons-nous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre invitation, en tout cas.
Au revoir.
Au revoir.
Divergence numérique, l'actualité du logiciel libre sur Divergence, est tous les jeudis à 12h30 et 17h30. Terror States.